Claude Askolovitch, là, pour la revue de presse. Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Un hommage posthume dans Libération.
L'hommage, Nicolas, rendu à un homme qui s'appelait Karim Ibrahim et qui venait du Soudan. Et il donnait le sourire aux autres miséreux de la porte de la chapelle à Paris, depuis la bouche d'aération de 3 mètres carrés sur laquelle il cherchait de la chaleur. Il est mort jeudi dernier, tout près d'un centre pour migrants géré par Emmaüs. Il était devenu gris, je pense qu'il s'est étouffé sous les couvertures alourdies par la pluie, raconte à Libération Vidal, qui vient du Cameroun et qui partageait cette grille d'aération de 3 mètres carrés avec Karim Ibrahim et aussi Ali, arrivé de Libye, et Kaba et Alpha Diallo, venus de Guinée. 5 hommes sur une grille de 3 mètres carrés. Une cérémonie s'est tenue hier, porte de la chapelle, en hommage aux jeunes morts. Une dame est venue, rose blanche à la main, nous dit Libération, et un panneau autour du cou. Je suis ici à la mémoire de Karim, mort de l'incurie de l'État français. Il y avait le chanteur Francis Lalanne et des défenseurs des migrants qui sont débordés. On lit dans le Figaro une excellente enquête qui nous révèle que les migrants, ces fameux migrants, sont exposés à la gale, à la tuberculose et à une immense fatigue, hantés, dit le Figaro, par des sentiments de mort, les violences, parfois les tortures qu'ils ont subies et aussi le parcours d'obstacles qu'ils doivent franchir pour obtenir des papiers ou simplement la couverture maladie universelle. Le Figaro publie ces témoignages de médecins à partir d'une étude réalisée par le SAMU social, tiens, au centre de la chapelle précisément, à côté de la grille d'aération où Karim Ibrahim se réchauffait avant de mourir. On pourra trouver aussi sur un blog de Mediapart tenu par un militant d'ACT UP, Mérôme Jardin, une évocation du jeune Soudanais et même une petite vidéo des adieux qui ont eu lieu en l'honneur de cet homme. Une centaine de personnes ce matin avaient vu cette vidéo. Est-ce dérisoire ou bien, Nicolas, est-ce que cela change tout. Car la presse a ce pouvoir étrange de retenir un instant seulement, ceux qui nous quittent. J'ai lu ce matin dans la montagne qu'à Désertines dans l'Allier, petite bourgade, une réunion s'est tenue dans un comité de quartier qui a raconté à ceux qui voulaient bien venir quelques grandes héroïnes de notre histoire depuis Julie-Victoire Daubier, première bachelière en 1861. Retenir ceux qui nous quittent, qu'il s'agisse de miséreux ou de grandes femmes oubliées. Loin de Désertines et des trottoirs de Paris, un très grand journal, peut-être le plus grand, le New York Times, essaye d'être à la hauteur de cette tâche. Il s'est rendu compte, le Times, que sa rubrique nécrologique, depuis plus d'un siècle et demi, ne parlait pratiquement que des hommes blancs. Et le journal a donc écrit maintenant, sur le tard, des hommages à ces grandes femmes qu'il avait laissées passer. On lit ainsi sur le site du New York Times, mais surtout ce matin dans son édition européenne, sur le papier. Et cela donne une consistance qui était, par exemple, Ida Wells. Ida Wells était une immense journaliste née esclave qui, à la fin du 19e siècle, enquêtait sur les lynchages de Noirs dans le Sud. Elle donnait vie oubliée de son temps. Ida Wells, qui existe donc par le New York Times, et Karim Ibrahim existe sur le papier froissé de Libération.
Emmanuel Macron et ses réformes à la une du Parisien, Claude, aujourd'hui.
Et lui, resplendit de vie, notre président micro en main et chemise blanche. Et le titre de une du journal, la stratégie du rouleau compresseur, veut décliner la volonté présidentielle exprimée en Inde, de nous dire que les réformes ne vont pas s'arrêter. Et on a ici la preuve même de la communication politique quand un discours du pouvoir impose sa narration à un très grand journal. On voit aussi dans le Parisien une photo du couple présidentiel en visite au Taj Mahal. Et le Monde nous raconte le dessous de cette visite organisée aux fins de la communication présidentielle. On l'entend donc, Emmanuel Macron, même si l'opinion, vrai journal libéral, questionne sa volonté de renforcer l'exécutif, va-t-on entendre son prédécesseur, François Hollande, en interview aujourd'hui dans Le Monde, en défense des Kurdes de Syrie et en rappel de sa constance. Les grands hommes font parfois les gros titres, mais qui fait l'histoire. Le Monde encore raconte un trentenaire, Jason Moyerly, le défenseur des nouveaux prolétaires. Cet Américain dirige au Royaume-Uni le syndicat des travailleurs indépendants, celui qui organise les grèves des chauffeurs Uber et des coursiers Deliveroo et des femmes de ménage pour leur obtenir un statut, des droits à l'ancienne. S'il l'emporte, qui aura fait l'histoire?
Des églises, rapidement, des églises en Lorraine, pour finir.
Qui ont la fragilité de l'éphémère, ces églises, quand on les pensait consacrées pour l'éternité, car elles vont s'écrouler, nous dit l'Est républicain, parce que les municipalités ne peuvent plus les entretenir et les fidèles les abandonnent. Et non, il ne s'agit pas seulement de vieilles pierres, mais d'églises modernes, construites après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été percutées par le reflux du sentiment religieux. Elles vont donc devenir ou deviendront restaurants, centres culturels ou pépinières d'entreprises. Si cette histoire nous emplit de nostalgie, il en est d'autres dans l'Humanité qui rencontre d'un livre engagé une histoire populaire du football, car ce sport fut celui du peuple contre la gentry et aussi de la liberté dans des émeutes en Égypte, en Tunisie et en Turquie. Et cela vient à point quand dans L'Équipe ou La Voix du Nord ou Libération, on revient sur la tristesse du club de football de Lille dont les supporters ont agressé des joueurs. Ultime nostalgie ou peur de perdre. Au carnaval de Dunkerque s'est déroulée samedi dernier la 50e Nuit des Noirs. Un bal où des fêtards se griment en guerriers africains de pacotille. Et la fête a eu lieu en dépit d'une poignée de militants antiracistes. Mais cette tentative antiraciste a exacerbé des colères dont fait part la Voix du Nord et qui laisse rêveur sur leur violence. C'est l'esprit de Dunkerque que vous piétinez, lit-on dans le journal. On reste sur cette perplexité quand l'antiracisme inspire le renouveau de l'identité.
Merci Claude pour cette revue de presse.